Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. La Maison de la Culture du Japon propose jusqu'au 16 mars l'exposition Fujita, œuvre d'une vie. C'est une rétrospective en 36 tableaux pour marquer le cinquantenaire de la mort du peintre japonais le plus connu dans le monde. Alors entre Paris, où il a plusieurs reprises longtemps séjourné, son Japon natal et ses nombreux voyages en Amérique du Sud, quelle vision de la première partie du XXe siècle avait cet artiste? On en parle ce matin avec une spécialiste de Fujita, Sophie Krebs. Le Réveil culturel, c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez en passant par le podcast, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec, ce matin, pour la prise de son, Alain Joubert.
Le Réveil culturel, mardi, expo.
Et c'est une rétrospective qui a eu un succès retentissant au Japon. Plus de 400 000 visiteurs ont célébré le peintre Fujita, puisque c'est quand même un enfant du pays, même s'il a beaucoup séjourné en France. Et l'expo Fujita, l'œuvre d'une vie, arrive en France, à la Maison de la Culture du Japon. Et on peut voir quelques toiles du maître pour la première fois. La commissaire de l'exposition, Sophie Krebs, est avec nous ce matin. Vous êtes conservatrice générale du patrimoine au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. On verra pour la première fois quelques tableaux de Fujita qui ne sont jamais passés par la France.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de tableaux qui ne sont pas allés en France, puisque après son premier séjour et le dernier, il a vendu bien entendu des œuvres. Et surtout, il y avait ces fameuses œuvres de la guerre qui ont été confisquées par le gouvernement américain à la fin de la guerre, comme œuvres de propagande, et qui sont toujours propriété de Washington, il faut le savoir, et qui sont pour la première fois ont voyagé hors du Japon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça permet maintenant de voir des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on cachait un petit peu au Japon.
Il y avait quelque chose à cacher, justement, pour parler de ces œuvres.
Oui, là,
de guerre de Fujita.
On sait que le Japon n'a pas eu le procès de Nuremberg et que c'est resté un pays qui a gardé une certaine fierté et n'a pas tellement reconnu de par le monde tous les exactions qu'ils ont fait pendant la guerre. La question de Fujita a été, c'est une toute petite question, hein, parce que le pauvre Fujita...
Il était enrôlé de force. Hein.
Comme tous les peintres, on avait de couleurs ou de toiles que si, effectivement, on collaborait avec le régime. Et sinon, on mourait de faim, c'est à peu près la seule possibilité qu'on avait à ce moment-là. Donc, il n'était pas fait pour être un peintre de propagande, mais il a joué le jeu, parce que c'était...
Une question de survie.
Voilà, une question de survie. Il choisissait pas ses sujets, on lui imposait, il faut le savoir, ça aussi. Et donc, au départ, on voit effectivement des tableaux, entre guillemets, militaristes, où il montre effectivement le nouveau matériel, les champs de bataille. Il y va, d'ailleurs, il assiste, mais comme beaucoup de peintres, il voit pas grand-chose, hein. Vous avez la fumée, des bombardements, mais c'est assez difficile de traduire la guerre. Et puis très vite, il va abandonner les champs de bataille, d'abord parce que c'était de plus en plus dangereux, et il va faire ça de mémoire, ou plus exactement en se remémorant tous les grands maîtres de la peinture française, notamment Géricault, Delacroix, qu'on voit dans la grande galerie du Louvre, où on voit vous savez, la fameuse geste napoléonienne, où on voit tous ces...
Qu'il a sillonné tant de fois lors de son premier séjour à Paris.
Voilà, exactement.
Et que disent justement ces tableaux de la guerre de Fujita, Sophie Krebs? Est-ce qu'ils restent dans son style, d'après vous, ou est-ce que c'est vraiment une parenthèse?
Je dirais c'est quand même une parenthèse, mais il la joue à fond. Comme lorsqu'il est peigné des chats ou des femmes nues, il a été jusqu'au bout, jusqu'à savoir par cœur le dessin, les faire quasiment de mémoire. Là, c'est pareil. Il est capable de faire en très peu de temps, parce que quand on voit des grands panneaux, hein, ça fait 3-4 mètres sur 2, ce sont des choses assez impressionnantes, de couleur ocre, parce que je pense qu'il n'avait pas toutes les couleurs. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que les restrictions de guerre faisaient qu'on n'avait pas tous les pigments nécessaires pour faire de la peinture. Et donc, il a fait deux œuvres, c'est les deux œuvres de la fin, et il montre plutôt des défaites japonaises, ce qui est très étonnant quand on est dans le pays très nationaliste et qu'était le Japon à l'époque.
Et très contrôlé, je suppose.
Et très contrôlé, de faire quasiment des défaites où on voit des Japonais qui se battent jusqu'au dernier, d'où le terme de harakiri, hein, parce qu'ils se font tous un petit peu, tous se sacrifient. Donc c'est à la fois pour le Japon impérial et militaire, c'était une façon de dire, ben voilà, les Japonais, sacrifiez-vous jusqu'au dernier. Pour lui, c'est très ambigu. Je pense qu'il y a une forme d'ode contre la guerre, quelque part. Parce que quand vous regardez bien ces tableaux, il y a une chose, moi, à chaque fois, je suis toujours étonné. Je n'arrive pas à savoir qui est japonais, qui est américain.
Ouais, parce que tout est crépusculaire.
Oui, mais même les costumes ou même les casques, on pourrait. Il y a des gens qui tiennent un sabre japonais, mais qui ont des têtes d'Américains, et puis vous avez d'autres qui sont soi-disant Américains, mais qui ont des têtes de Japonais. C'est très très étrange et très dérangeant quelque part, parce que vous n'arrivez pas à savoir à quoi on a affaire. On est face à vraiment une mêlée. Et dans la mêlée, vous ne reconnaissez pas vraiment qui est le victime et qui est l'agresseur.
Comment il ressort de cette période, Fujita? Parce que je rappelle, Sophie Krebs, dans cette exposition, qui est plutôt une rétrospective avec un choix restreint, mais qui explique bien toute l'œuvre de Fujita, qui a l'avant et l'après aussi.
Alors, on peut dire que il s'en remet, mais il s'en remet pas vraiment. C'est-à-dire que le Fujita, fanfaronnant et je dirais facile.
Des années folles,
ou même de la période américaine où il voyage, a un petit peu disparu et va quitter, je dirais, le monde de la réalité. Vous aviez, on peut faire allusion notamment au manga, parce que chez les Japonais, Fujita est quand même un artiste qui est perçu comme pré-pop. Ce qui peut paraître étonnant, mais quand on voit la dernière période de sa vie...
Même son autoportrait, il est assez pop quand même,
oui,
non?
Oui, il y a quelque chose de tout à fait étonnant, ce jeu sur les objets qu'il affectionne. Mais surtout, à la fin, on n'est plus dans le monde de la réalité. Il a quitté, d'ailleurs, toutes ces toiles de la fin sont peuplées de... On ne sait pas si c'est d'enfants ou de poupées, on est entre des choses un peu bizarres, mais vous savez, le pop japonais est quand même fondé sur une sorte d'enfance qui lui-même va chercher certaines sources dans le manga japonais. Donc ce côté petite fille ou petit garçon qui nous rend très, comment dire, quelque part on est un peu mal à l'aise face à cette espèce d'expression, mais a très très bien
Pourquoi
marché.
Pourquoi mal à l'aise, Sophie Krebs?
Parce que ce sont des enfants sexués, quelque part. Je crois que les choses sont, pour moi, claires et nettes. Aujourd'hui, on peut plus faire un peu l'impasse là-dessus. Dans les années 50, on trouvait ça mignon, joli. Mais je pense que c'est pas si mignon ni si joli que ça. C'est une sorte de manière de montrer l'enfance. Et vous savez très bien que dans l'art, ça a fait débat ces dernières années, puisque c'est cette liberté artistique est quelque part remise en cause par un certain nombre d'associations protectrices des enfants. Donc on a eu ces débats ces dernières années, et chez Fujita, c'est quelque chose de très intéressant. De même que quand il ne peint pas des enfants, il peint des animaux à la place, qui mime qui singent, je dirais, les adultes. Donc c'est très intéressant, c'est qu'ils quittent cette espèce de réalité. Et troisième période, après la guerre, il se convertit au catholicisme dans les années 60. Et là, vous avez, je dirais, une réinterprétation à la manière de Fujita de toute la peinture religieuse depuis le 15e siècle flamand, où il se met carrément en orant, agenouillé auprès de la Vierge. Enfin, c'est très, très, très étonnant. Hein.
Et en même temps, c'est très beau, on peut le dire, Sophie Krebs.
Alors, c'est une très belle peinture. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui peint bien, qui est vraiment un maître du trait, comme on l'a souvent surnommé, et qui sait manier avec beaucoup d'élégance la peinture, les silhouettes, mais qui est toujours à la limite, vous savez. Moi, j'ai toujours pensé que Fujita avait quelque chose à voir avec le mauvais goût. C'est une acception qui est aujourd'hui assez répandue hein, dans l'art contemporain. À la limite, hein, depuis Jeff Koons, vous savez, plus rien ne...
Et c'était volontaire chez Fujita, je suppose.
Et je pense que c'était volontaire.
Bon, un artiste voilà. Qui se veut promener à poil lors de ses expositions, il cherchait aussi
oui.
Ça.
Oui, je pense qu'il cherchait ça. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui avait connu, qui avait très bien compris comment utiliser son image devant les médias. Ça, c'est quelqu'un qui, très tôt, a travaillé avec les médias. Quand on voit que même dans les années 20, il est sur les premiers films d'actualité, on le voit, il est le petit toutou, j'aime bien cette expression-là, de Mistinguette qui l'emmène à Deauville et qui le balade comme son petit, sa nouvelle trouvaille, où il fait le pitre pour, parce qu'il était en plus très doué de ses mains, il faisait des costumes, puisque... Pendant la guerre, il avait la guerre de 14. Il s'était réfugié en Angleterre et il avait travaillé chez un tailleur. Et donc, il avait appris la couture. C'est pour ça qu'on le voit souvent avec des dés, des aiguilles, parce qu'il faisait ses propres vêtements. Donc, il avait un talent fou. Et il a très vite capté l'intérêt d'être un Japonais à Paris, d'être le seul, l'unique, et avec sa tête bizarre, sa mèche, sa coupe au bol ou ses anneaux d'oreilles, il était effectivement impayable. Enfin, tout le monde le reconnaissait. Hein.
C'était le Zazou, c'était le roi des Zazous.
Voilà. Et d'ailleurs, rien ne lui faisait plus plaisir que justement d'être reconnu dans la rue.
Y compris quand il allait du côté du marché de Saint-Ouen.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est au marché aux puces que l'on trouve toutes les sortes d'occasions.
Moi je cherche un mirus.
Moi une lampe à pétrole.
Et moi un tire-bouchon.
Il y a même des trucs de luxe.
Des costumes, des cravates, des sans-points.
Sur de telles occasions, faut sauter à pieds joints. Au marché, au plus à Saint-Ouen.
Tout le monde a besoin d'amour. Et moi je suis comme tout le monde. Pendant des nuits et des jours, j'ai rêvé d'une jolie blonde. Dans tout Paris, j'ai fait de nombreux essais. Malheureusement, chaque fois son succès. Mais j'ai fini quand même par dénicher ce que j'avais tant cherché. C'est au marché aux puces, j'ai trouvé un petit cœur d'occasion.
À côté d'un virus, entre une paire de bretelles et un beau tire-bouchon. Un sourire plein d'astuces.
De petites fossettes dans tous les coins. Sur une telle occasion, faut sauter à pieds joints.
Au marché aux puces à Saint-Ouen. C'est au marché aux puces.
J'ai trouvé un phono d'occasion.
Oh, On imagine bien Fujita traînant dans ces marchés-là, le marché opus de Saint-Ouen, par exemple. Alors, on est en train de fêter un peu le cinquantenaire de sa disparition. Ça a commencé par l'exposition au musée Mayol. Et en ce moment, c'est à la Maison de la Culture du Japon qu'on rend hommage avec cette rétrospective en 36 tableaux. Fujita, donc, l'œuvre d'une vie, Sophie Krebs. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'expo du Japon qui a eu un tel succès au Japon, qui arrive tel quel en France, où vous avez choisi parmi les œuvres exposées un choix représentatif pour le public français?
Alors, oui, c'est tout à fait ça. Il y a eu beaucoup de problématiques avant cette exposition à la Maison du Japon, puisque ça devait être dans un musée français, et pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc la sélection que nous avons fait avec la commissaire japonaise Yoko Hayashi, c'était de faire une sélection qui soit représentative pour un public français. Alors pourquoi français ? Qu'est-ce que les Français, en fait, c'est plutôt.
Tout en plus que Fujita, c'est le plus français des Japonais.
Oui. Alors, mais on a fait beaucoup, il y a beaucoup de jeux sur qu'est-ce que la France vue par Fujita. Si on regarde bien, ça va de ses autoportraits où il met de la céramique des îlettes, en passant par les sabots bretons qu'il avait achetés lors d'un voyage, ou tout un ensemble d'idées reçues hein, sur ce que c'est que la France, avec effectivement des objets usagés. C'est assez amusant de voir que ça ne l'a jamais lâché depuis le début jusqu'à la fin de sa vie.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a été vraiment le témoin d'une époque, Fujita, de cette première partie du 20e siècle? Par exemple, quand il revient en France, donc je ne parle pas du premier séjour, le séjour d'initiation, de formation à l'art occidental via la peinture française, quand il revient en France, est-ce que il va remarquer tous les changements? Est-ce qu'il va les représenter?
Oui, d'ailleurs, il participe à un salon qui s'appelle le salon Témoin de son temps, qui donnait des thèmes. Et il va participer c'est un salon figuratif. En pleine après-guerre, on est quand même beaucoup dans l'abstraction, et lui fait exception. Il était d'ailleurs très, très ami avec Bernard Buffet, et même les jeunes peintres, il s'intéressait beaucoup à ce que faisaient les jeunes peintres. Donc c'est pas quelqu'un alors il a sa propre carrière, mais il s'intéressait aux autres de manière très précise, et il était très connu même après-guerre, on le voyait partout, il se rendait partout.
Ces scènes de bistrot, de café sont vraiment exceptionnelles.
Tout à fait, on a l'impression qu'on était là hier. Ouais. Hein, donc il y a un sens de l'observation chez lui qui est très fort. Hein. C'est d'ailleurs tout ce que les critiques qui l'ont vu la première fois ont dit. Oui, il nous met le nez là où on ne voyait plus rien. Et lui, il nous redonne ce goût de l'objet, de voir des choses qui nous paraissent maintenant assez drôles, où on avait oublié l'assiette de la grand-mère qu'on a mis, ou la gravure d'Épinal qu'on a peut-être dans nos greniers quelque part.
Il a même réussi à un inventaire de qu'est-ce que la France,
oui.
En relevant tous les détails, c'est plutôt bien vu. Mais Sophie Krebs, est-ce qu'on peut dire que Fujita a toujours été bien vu par la critique, puisque vous parlez de la critique, où il a été réévalué plusieurs fois lors de ces 50 dernières années depuis qu'il a disparu?
Alors,
en 1968.
La critique ne l'a pas toujours épargné. La critique même japonaise d'abord, parce que c'est quand même quelqu'un qui a décidé de quitter le Japon. Et quelque part, ils sont, comme je vous l'ai dit, assez nationalistes dans l'âme. Et il a changé de nationalité, ce qui, quand vous faites naturaliser
français... Avant de changer de religion, oui.
Oui. Et donc, quand vous faites français, vous abandonnez la naturalité.
Japonaise.
Donc c'est la raison pour laquelle les Japonais ont mis beaucoup de temps avant de l'apprécier. Il faut attendre les années 80 pour que il y ait un véritable engouement de ce peintre japonais. Avant, il n'est pas tellement collectionné, c'est plutôt en France. Les Français l'ont toujours apprécié, mais pratiquement qu'en France. Et puis il y a eu une espèce d'abandon de Fujita, parce que c'est l'école de Paris, c'est des peintres, des petits peintres, des choses pas très intéressantes. Donc il a fait partie de ce mouvement qui faisait que c'était pas très intéressant. Mais Il y a eu des critiques très, très positives dès le début, quand il est arrivé en France. Ça a toujours été, et on a toujours mis l'accent sur ses grandes qualités graphiques, son sens de l'observation. Après, vous avez d'autres critiques, peut-être plus politiques, qui l'ont vu comme un peintre bourgeois qui fait un petit peu son miel de demi-mondaine.
Donc oui, ça... dandy, mandin, ok, zazou, ok, mais pour bourgeois, j'arrive pas à voir Sophie Krebs. Qu'est-ce qu'il
il
fait?
Il ne l'est pas, lui. Oui. Il n'a pas une vie bourgeoise, c'est moins qu'on puisse dire. Ce serait plutôt bohème, avec moult femmes et problèmes qui vont avec. Parce que quand même, quand il était avec Yuki Desnos, hein, c'est un ménage à trois avec Desnos à un moment donné. Ce qui lui fait dire que bon, il n'a pas nécessairement voulu cette situation-là. Raison pour laquelle il part de France. Ça, je pense que c'était trop compliqué pour lui. Je veux bien le croire que ça va être un peu compliqué de partager une femme avec, même si c'est un surréaliste tout à fait charmant. Et donc ça, c'est un peu cette vie un peu qui n'a rien à voir avec une vie bourgeoise. Mais il a été apprécié auprès d'un public bourgeois. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Ceci dit, ce sont des œuvres qui valent très très cher.
Aujourd'hui ?
Oui.
Terminez, Sophie Krebs, quelle est votre propre histoire avec Fujita? Parce que là, vous vous occupez bien sûr de cette exposition à la Maison de la Culture du Japon, mais j'ai remarqué que ça fait longtemps que vous vous intéressez à Fujita.
Ah oui, ça a commencé quand une vieille dame qui s'appelait Kimio Fujita est arrivée un jour au musée en nous offrant, pour une donation, les dernières œuvres de sa vie, qui étaient que des tableaux religieux. Et quand on a vu ça... Musée d'art moderne de la ville de Paris, dirigé par Suzanne Paget à l'époque, plutôt très contemporain, on a fait quand même « Waouh, ça va être compliqué à montrer hein. ». Et on a quand même accepté, on aurait pu dire « Non, c'est pas notre tasse de thé ». Et moi, je suis toujours très intrigué par des artistes qui continuent à œuvrer malgré tout, qui ont une période connue. Et qui continue à travailler. Pourquoi ce serait moins bien à la fin qu'au début? Alors on peut dire il est un peu sénile, il est un peu ceci, il est un peu cela, mais c'est pas le cas de Fujita du tout. Il y a peut-être une moins... Les thèmes changent parce que sa vie change aussi. Et je pense qu'on est toujours un petit peu exigeant, on veut que tout... Regardez Matisse, il n'avait pas été malade et il n'aurait peut-être pas fait ses papiers découpés. On ne sait jamais ce que la vie vous réserve, et un peintre, c'est du début jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on fait des rétrospectives. C'est pour tout montrer. Si on ne commence par ne pas montrer l'ensemble, on triche un peu quelque part. On déforme une carrière d'un artiste.
Mais il y a un tableau, une toile, un détail chez Fujita qui vous a touché très particulièrement, Sophie Krebs?
Je pense que j'étais assez étonnée par ses autoportraits. Je pense que de loin, c'est ce que de toute son œuvre, si je devais emporter quelque chose de lui, c'est ses autoportraits. Cette façon, ce face à face, parce qu'il se montre toujours de face, extrêmement sérieux, à la japonaise. Avec tous ces petits gris-gris autour.
Ses crayons, ses chats.
Voilà. Et toujours en montrant une image de ce qu'il fait. Donc c'est pas un peintre qui... Il se montre quand même comme peintre. C'est vraiment une image de peintre. ça pourrait être, je dirais, il revient vers une tradition du portrait de peintre, mais qu'il met au goût du jour, au goût un peu japonais, mi-français. Mais quelque part, des fois, c'est très japonais quand on regarde ses autoportraits. Mais ça n'a rien à voir avec l'art japonais non plus. Donc on est dans un espèce d'entre-deux, où on ne sait pas si ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est vraiment français, de ce qui ne l'est vraiment pas. Moi, j'ai beaucoup de mal à savoir ce qui... Il y a quelque chose d'étrange, et c'est cette étrangeté qui est plutôt intéressante pour lui.
Bon, moi, j'arrive pas à dire le prénom de Fujita, mais vous le savez.
Tsuguharu.
Bravo, Sophie Krebs.
Mais c'est Léonard, après.
Après, c'est Léonard, bien sûr. Merci d'être venu pour nous parler justement de cette rétrospective. Fujita, œuvre d'une vie en 36 tableaux. C'est jusqu'au 16 mars à la Maison de la Culture du Japon. Merci beaucoup, Sophie Krebs.